VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Lévillon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 11 octobre 2023. Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis désignent Steve Scalise pour remplacer Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, évincé la semaine dernière. Le bilan du conflit entre Israël et le Hamas ne cesse de s'alourdir avec des milliers de morts recensés.
La télé de l'Égypte serait devenue stable avant que tout s'arrête, tout dans l'ordre le plus vite possible. Elle n'a aucun intérêt à dédier un conflit à ses frontières, que ce conflit risque de faire jouer dans toute la région.
Frida Damani, journaliste et spécialiste du Moyen-Orient, va évoquer dans la partie magazine les chances d'une médiation égyptienne. Au Niger, le régime militaire ordonne à la coordonnatrice de l'ONU de quitter le pays. Mali, le gouvernement annule l'autorisation de reprise des vols par Air France. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. L'actualité américaine, les républicains majoritaires à la Chambre des représentants ont choisi aujourd'hui Steve Scalise pour occuper le poste de speaker, laissant entrevoir la fin du feuilleton de la succession de Kevin McCarthy, déchu de son poste la semaine dernière après des querelles internes. Eric Manirakiza.
Monsieur Scalise, qui occupe actuellement la deuxième place dans l'organigramme du Parti républicain, doit encore obtenir l'approbation de l'ensemble de la Chambre avant de pouvoir prétendre au poste de président. Il a emporté sur Jim Jordan, le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, lors d'un vote à bulletin secret. Monsieur Scalise, âgé de 58 ans, a reçu le soutien de nombreux vétérans et membres de l'establishment du Parti républicain. Il reste à voir si les partisans de Monsieur Jordan, proches de Donald Trump, vont soutenir Monsieur Scalise lors du vote en séance plénière. En janvier, Monsieur McCarthy a dû passer par 15 tours de vote pour devenir président de la Chambre. Les législateurs républicains ont également rejeté une proposition exigeant que le candidat à la présidence obtienne 217 voix sur les 221 membres de leur conférence. Cela pourrait s'avérer délicat si les 212 démocrates de la Chambre s'unissaient dans l'opposition comme prévu.
En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou et un de ses principaux chefs de l'opposition, Benny Gantz, ont annoncé un accord pour créer un gouvernement d'urgence pour la durée de la guerre alors que le pilonnage de Gaza continue. Le bilan est de 1200 morts en Israël, tandis que dans l'enclave de Gaza, le bilan est à 1055 morts. Claire Moredibou.
Israël a poursuivi ses pilonnages sur la bande de Gaza. Les combattants du Hamas ont tiré des roquettes sur Israël. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié l'offensive massive du Hamas de sauvagerie jamais vue depuis la Shoah, promettant que son pays allait vaincre avec de la force, énormément de force. Monsieur Netanyahou et Benny Gantz, le président du Parti de l'Unité Nationale, se sont mis d'accord sur la mise en place d'un gouvernement d'urgence et d'un cabinet de guerre. Avec l'entrée du parti de Monsieur Gantz, ancien ministre de la Défense, le gouvernement d'urgence aura un soutien plus large avec 76 députés, soit 12 de plus que la coalition politique sortante. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu en Israël demain. Le président Joe Biden a répété que le soutien de Washington à Israël est inébranlable et a indiqué qu'il s'est à nouveau entretenu ce matin avec le premier ministre israélien pour la quatrième fois depuis l'offensive sans précédent déclenchée samedi par le groupe islamiste palestinien.
L'Égypte s'efforce d'éviter un exode massif de la bande de Gaza vers sa péninsule du Sinaï alors que les bombardements israéliens ont interrompu mardi les passages aux principaux points de sortie de l'enclave. Le poste frontière de Rafah reste fermé ce mercredi, et l'armée y a pris de nouvelles positions organisant des patrouilles pour surveiller la zone, a déclaré Ahmed Salem de la Fondation du Sinaï pour les droits de l'homme. Rafah est le seul point de passage possible vers le Sinaï pour les 2,3 millions d'habitants de Gaza. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mercredi au siège de l'Alliance militaire de l'OTAN à Bruxelles afin de demander des systèmes de défense aérienne, des pièces d'artillerie et des munitions supplémentaires pour aider son armée à traverser un nouvel hiver de guerre. Aux côtés de Volodymyr Zelensky, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine se préparait une fois de plus à utiliser l'hiver comme une arme de guerre en s'attaquant aux infrastructures énergétiques en Ukraine. Le gouvernement afghan a considérablement revu à la baisse le bilan du séisme qui avait frappé samedi l'ouest de l'Afghanistan pour établir à plus de 1000 morts, attribuant la confusion sur les chiffres à la difficulté de tenir un décompte exact dans un tel chaos.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité sur le continent. Au Niger, le régime militaire a ordonné à la coordinatrice de l'ONU dans le pays, Louise Aubin, de quitter le pays dans les 3 jours en dénonçant les entraves de l'ONU à sa reconnaissance internationale. Le point avec Nani Talani.
Le gouvernement décide d'ordonner à l'ambassadeur, coordonnateur résident du système des Nations Unies, Son Excellence Madame Louise Aubin, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter Niamey sous 72 heures, a écrit la diplomatie nigérienne. Cette décision est motivée par des entraves mises, selon Niamey, par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en vue de contrarier la participation pleine et entière du Niger à la 78e Assemblée générale de l'ONU en septembre à New York, où le représentant du Niger, Bakary Yaou Sangaré, n'avait pas pris la parole. La junte nigérienne avait déjà dénoncé des agissements perfides de M. Guterres visant, selon Niamey, à entraver la participation de Bakary Yaou Sangaré à cet événement et saper tout effort de sortie de crise. Les militaires nigériens avaient dénoncé le refus de M. Guterres de prendre acte de la liste officielle des délégués du Niger. Madame Aubin, de nationalité canadienne, a été nommée en janvier 2021. Son expulsion intervient au lendemain de l'annonce par les États-Unis de la suppression de leur aide économique au Niger et la France a commencé à retirer ses soldats.
Et l'ONU n'a pas tardé à réagir. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, regrette profondément l'ordre d'expulsion de la coordinatrice de l'ONU au Niger par le régime militaire qui va entraver les opérations humanitaires, a déclaré aujourd'hui son porte-parole. Au Niger, ce sont 4,3 millions de personnes qui ont besoin d'aide, a insisté Stéphane Dujarric, ajoutant que cet ordre était contraire aux règles internationales applicables aux représentants des Nations Unies. Au Mali, les militaires au pouvoir ont contraint la compagnie Air France à revoir son projet de reprendre en fin de semaine la desserte de Bamako, suspendue depuis 2 mois dans un contexte de tension entre la France et le Mali. Les précisions avec Dili Diko.
Après avoir annoncé la reprise vendredi prochain des vols Paris-Bamako par l'intermédiaire d'une compagnie tierce, Air France a indiqué que la desserte est reportée jusqu'à nouvel ordre à la suite de demandes complémentaires des autorités maliennes. Pour sa part, le ministère malien des Transports a dit que la demande de reprise d'Air France est en cours d'examen et que les vols d'Air France restent suspendus pendant cette procédure d'examen. 2 responsables maliens et un acteur du transport aérien, sous couvert d'anonymat, ont laissé entendre que la décision a été annulée car l'accord a été donné sans consultation de la hiérarchie. Le directeur de l'aviation civile au Mali a été limogé, a dit un responsable, sans dire exactement ce qui lui est reproché. Air France avait suspendu le 7 août ses 7 vols par semaine à destination du Mali et 5 vols par semaine vers le Burkina après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin.
Au Libéria, le processus de comptage des voix est lancé au lendemain d'élections présidentielles, législatives et sénatoriales. D'après la commission électorale, le taux de participation est élevé. Une équipe d'observateurs de la CEDEAO a déclaré que le scrutin s'est déroulé dans le calme qu'aucun incident majeur n'a été signalé. Cette élection oppose le sortant, George Weah, à 19 autres candidats. Pour éviter un second tour, le vainqueur devra obtenir plus de 50% des suffrages. Le procès de deux présumés génocidaires rwandais a repris aujourd'hui à Bruxelles. En l'absence de l'un des accusés, un homme de 76 ans qui est souffrant et doit rester hospitalisé encore au moins 15 jours, a indiqué la présidente de la cour d'assises. Pierre Bassabose, 76 ans, et Séraphin Touahéra, 65 ans, deux Rwandais proches de l'ancien couple présidentiel Habyarimana et ayant trouvé refuge en Belgique, doivent répondre de crimes de guerre. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nanik Dalani.
Des millions de filles et de jeunes femmes en Afrique de l'Est et australe vont bénéficier d'un meilleur accès à l'éducation et à des opportunités d'autonomisation économique grâce à un financement de 832 millions de dollars de l'Association internationale de développement. Madagascar et le Mozambique sont les deux premiers pays à participer à l'initiative. Les prochaines phases devraient inclure la RDC, le Burundi, les Comores, le Lesotho, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la BAD ont signé un accord de crédit comprenant 50 millions de dollars et 50 millions d'euros pour soutenir les entreprises agricoles locales et les agriculteurs en Afrique de l'Ouest. Ces fonds vont permettre à la BIDC de financer les banques commerciales, les entreprises locales et les coopératives opérant dans le secteur de l'agriculture et des produits de base pour 3 ans et demi. Pour terminer, la valeur du portefeuille de la BAD au Kenya est passée à 3,95 milliards de dollars en septembre 2023 contre 2,88 milliards de dollars en 2018, soit une croissance de 37,2%, indique la BAD. Le portefeuille de cette banque au Kenya comprend 51 opérations dans les secteurs du transport, de l'eau et de l'assainissement, de l'énergie, de la finance, de l'agriculture, des affaires sociales et de la gouvernance multisectorielle.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Maroc et le Sénégal en épouvantail du tirage au sort de la CAN 2023.
Oui, le Sénégal tenant du titre et le Maroc demi-finaliste du Mondial 2022 retiennent beaucoup d'attention dans ce tirage au sort qui aura lieu demain à Abidjan en Côte d'Ivoire. On retrouve aussi dans le premier chapeau l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le pays hôte, la Côte d'Ivoire justement, tous anciens vainqueurs de la compétition et rangés parmi les principaux prétendants au titre continental. Le chapeau de compte, quelques clients et là aussi d'ex-lauréats à l'image du Nigeria, de l'attaquant de Naples Victor Osimhen, du Cameroun, du Ghana et de la République démocratique du Congo. Le Mali et le Burkina Faso complètent ce chapeau avec l'étiquette d'outsider. Pour Adou Mel, chroniqueur sportif que j'ai joint à Abidjan, le chapeau 1 regroupe les meilleures équipes d'Afrique du moment.
Quand on prend toutes ces équipes, tous ces pays, ce sont des champions d'Afrique. C'est du lourd en un mot. Ces pays ne vont pas se retrouver dans une même poule. Donc, elles sont têtes de chapeau et ce sont les autres éléments qui vont se greffer sur chaque pays en fonction des poules.
On pourrait quand même s'attendre à des rencontres de choc dès la phase de groupe parce que dans le chapeau 2, il y a des pays comme le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Ghana ou encore le Nigeria de Victor Osimhen, qualifié souvent d'outsider.
En dehors peut-être du Burkina qui arrive toujours avec de grosses ambitions, mais malheureusement après qu'il s'est mis en désillusion. Le Nigeria est un gros morceau, le Ghana également. Mais vous savez, comme par le passé, la seule évocation de ces noms donne des frissons. Mais la coquille, c'est comment aujourd'hui? Est-ce que ce sont des pays qui ont encore du répondant? Parce que nous savons, en dehors du Nigeria qui s'est qualifié, je crois, avant terme, à 2 journées de la fin, le Ghana a primé. Le Ghana, il a fallu la toute dernière journée pour se qualifier, tout comme la RDC que vous avez hésité. Mais je peux aussi vous assurer que la RDC n'est pas ce gros morceau qui faisait peur il y a peut-être 30 ou 40 ans.
En termes d'organisation, est-ce que tout est fait près du côté d'Abidjan?
Ah oui, ça je peux vous le garantir. Hein. La cérémonie aura lieu au parc des expositions. C'est le nouveau parc qui a abrité le Sahara récemment, je vous assure que c'est un chef-d'œuvre. Et toutes les dispositions, jusqu'à hier, nous étions là-bas pour une petite visite. Je peux vous assurer que tout sera simple. Les accréditations sont en train d'être retirées pour la cérémonie proprement dite. Le gouvernement lui-même a pris la chose à bras le corps. Et je crois que les choses vont très très bien se passer.
Adoumel, chroniqueur sportif. Pour rappel, 6 groupes de 4 équipes seront tirés au sort et de grosses affiches sont possibles dès le premier tour de cette CAN qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Les premiers et les deuxièmes de chaque groupe et les 4 meilleurs troisièmes accéderont aux 8e de finale.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, les autorités de transition font le bilan d'un an de la phase 2 de la transition. C'était à l'issue du dialogue national inclusif tenu à N'Djamena que les partisans de la transition ont plébiscité Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, le 10 octobre 2022, pour un mandat de 2 ans pour organiser les élections auxquelles il peut se présenter. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point dans la capitale tchadienne.
Célébrer un anniversaire comme celui de mon investiture qui marque l'an 1 de la phase 2 de la transition est loin d'être un moment de réjouissance, mais plutôt un moment de rétrospective collective et d'évaluation, a déclaré le président tchadien de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, dans son message à la nation. Cependant, il rassure avoir déjoué la tentative de déstabilisation du pays au lendemain même du dialogue national inclusif.
Oui, nous n'avons ménagé aucun effort pour barrer la route à ceux qui ont voulu mettre le pays à feu à sang. Nous avons été ferme face à toutes les dérives.
Pour lui, la paix passe nécessairement par la poursuite du processus de la réconciliation nationale.
Les mesures de grâce, le retour des opposants politiques et armés participent de notre ferme volonté de cimenter le processus de pardon. J'ai saisi cette opportunité pour appeler une nouvelle fois tous mes compatriotes encore en dehors du pays, quelle que soit leur option de lutte, à faire confiance à leur pays.
Annonçant son retour pour le 18 octobre, conformément à cette ouverture des autorités de transition, l'opposant Dr Succès Masra, qui était sorti du Tchad quelques jours après les événements du 20 octobre, a été non seulement visé par un mandat d'arrêt international, mais aussi ses militants qui se préparent pour l'accueillir malgré cette décision judiciaire ont été arrêtés le 1er octobre. Plus de 200 selon la direction du parti Les Transformateurs, mais des sources policières annoncent une cinquantaine d'arrestations.
Nous avons envoyé une correspondance au ministre de la Sécurité publique pour l'informer de l'arrivée de notre leader et compte tenu du nombre de personnes qui sont engagées à sortir pour accueillir notre président, nous avons pensé mettre en place une équipe de sécurité pour encadrer ces gens. Et ce sont ces jeunes-là qui sont en train de faire leur footing le matin. Ils ont été ramassés.
Dr Tougui Nangorngar, secrétaire général du parti Les Transformateurs. Ces jeunes sont gardés aux renseignements généraux depuis le 1er octobre et ils dénoncent les conditions de leur détention.
On refuse qu'on leur donne à manger. On n'a pas accès à eux. Et aujourd'hui, nos avocats se sont débrouillés pour arriver là-bas. Et ce qui nous rapporte, nous préoccupe. Ces jeunes sont torturés, ils sont entassés dans une cellule. Comment est-ce qu'on peut traiter ainsi des jeunes contre qui rien ne pèse en ce moment?
Saleh Kebzabo, premier ministre de transition, reconnaît que la phase 2 de la transition est marquée par la cherté de la vie.
La flambée des prix des denrées de première nécessité est inacceptable. C'est pour cela que j'ai présidé la semaine dernière une réunion consacrée à cette question et des mesures ne sauront tarder à être prises pour alléger les souffrances de nos populations dans la mesure des capacités du gouvernement.
Autre défi que les autorités de transition affirment avoir relevé avec succès, c'est la mise en place de tous les organes pour la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national. Ces structures ont contribué à l'élaboration de nouvelles lois et des textes contraignants pour assainir les cadres des élections à venir et ont obtenu un bon résultat par endroit. L'opération de la révision du fichier électoral qui déterminera la suite du processus. André Kodomazingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Réinsertion socio-économique des femmes déplacées à Koro, dans le centre du Mali. La ville de Koro, située dans la région de Bandiengara, a accueilli un nombre important de personnes déplacées, dont des femmes. Maïmouna Goro est une femme déplacée de Dinagourou, vivant à Koro. Elle a choisi la restauration pour sa propre réinsertion socio-économique et emploie d'autres femmes déplacées dans son restaurant de Koro. La correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Suite aux attaques des groupes armés, de nombreux habitants ont déserté leur village et hameau pour se réfugier dans la ville de Koro.
À cause de l'insécurité, j'ai fui pour venir à Koro pendant que mon village de Nanguru était sous embargo par des groupes armés.
La population de la ville de Nanguru était sous blocus des terroristes, impossible d'y entrer ou d'en sortir. Une situation qui a affecté l'état de santé de Maïmouna.
Avec l'embargo, j'ai fait 4 mois sans prendre le médicament, car ce n'était pas facile d'envoyer les médicaments ici. J'ai eu un convoi et je l'ai suivi pour venir à Koro ici.
Comme elle, beaucoup de femmes déplacées vivent depuis des années dans la ville de Koro, dans des conditions très difficiles. Certaines d'entre elles ont perdu leur mari suite aux attaques des groupes armés. Malgré cela, Maïmouna n'est pas restée les bras croisés.
J'ai ouvert mon restaurant. Je vends du riz, du haricot, du thon aussi. Le marché est bon, surtout les jours de foire de Koro.
Dans le cadre de la réinsertion socio-économique et pour aider à la stabilité des foyers, des organisations humanitaires appuient les femmes déplacées dans la ville de Koro. Genevou Ongoïba est une bénéficiaire.
Grâce à l'appui que j'ai bénéficié, j'ai pu acheter un congélateur. Je produis la glace et d'autres femmes déplacées et revendeurs de la glace profitent aussi.
Malgré l'amélioration de sa situation socio-économique, Maïmouna n'oublie pas les bons moments passés avec son mari, décédé suite à l'embargo.
Mon mari était malade et nous étions sous embargo. Évacué à Sivari, il est décédé 2 semaines après son évacuation. Chaque fois que je suis seule, je n'arrête pas de penser à lui.
L'exemple de réussite de cette restauratrice inspire d'autres filles déplacées qui viennent apprendre le métier de la restauration. Pendant les jours de foire de Koro, le restaurant de Maïmouna ne désemplit pas.
Chaque fois que je suis à Koro, je mange dans ce restaurant. Elle fait des plats délicieux.
Malgré tout, elle prie pour le retour de la paix et de la cohésion sociale pour que toutes les femmes puissent relancer les activités génératrices de revenir dans les centres du pays. Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique à Koro.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Le marché de Koloban à Dakar est un marché où l'on peut tout trouver, comme tout perdre. C'est l'un des plus célèbres et des plus anciens de la capitale sénégalaise. On y trouve du tout, des habits au téléphone portable en passant par les fournitures scolaires et la friperie. L'histoire de ce marché est également rattachée au cas de vols fréquents que subissent les clients. Les riverains, eux, se battent contre les préjugés et la mauvaise réputation de leur quartier. De notre correspondant à Dakar, Sédina Bagueye.
Considéré comme le trait d'union qui lie la banlieue au centre-ville de la capitale, Koloban et son marché sont des endroits de rencontre très fréquentés. De cette fréquentation naquit la mauvaise réputation de ce quartier de Dakar. Entre les vols, les pickpockets et les agressions, le quotidien de ce marché est rythmé par des forfaitures aux grandes dames des clients et riverains. Mbaïsou, habitant de Koloban.
On reconnaît que Koloban a une sacrée réputation parce que vraiment, il y a des coins chauds et des endroits où l'on trouve des personnes avec de bonnes intentions et d'autres avec de très mauvaises intentions. Par contre, ces malfaiteurs n'habitent pas le quartier. Ils viennent, font leur forfait, puis s'évaporent. Mais ceux qui habitent et travaillent ici à Koloban ne le font pas. Ces bandits qui ternissent notre réputation se cachent dans les champs jusqu'à la tombée de la nuit pour commettre leur forfait.
Une réputation peu flamboyante que les marchands tentent de reluire à leur risque et péril. Serdien, est un vendeur de friperies.
Chaque jour, on voit des clients passer en se disant qu'il faut surveiller leur poche car ils sont à Colobane. Nous avons donc décidé de prendre en charge la sécurité pour sauvegarder nos commerces. Ainsi, nous formons des brigades et essayons de nous solidariser pour combattre la criminalité et chasser les voyous qui rôdent. Malheureusement, certains qu'on amène à la police n'hésitent pas à venir nous menacer dès leur sortie.
Malgré ces initiatives, la renommée de Colobane est toujours entachée, causant beaucoup de tort aux marchands de la zone. Mourundong, habitué de Colobane.
Des fois, nous voyons de très jolis articles en vente sur les plateformes digitales. Mais quand on appelle et que le vendeur nous dit que c'est à Colobane, on hésite fortement. Des fois, on préfère envoyer les livreurs. Et même avec ça, c'est risqué car souvent, des gens sont arrêtés pour recel parce qu'on leur a vendu des articles volés. Autant de choses qui font qu'on se méfie énormément des produits venant de Colobane.
Ils sont des milliers de personnes à transiter par Colobane chaque jour et des centaines à se partager les cantines et le trottoir pour faire marcher leur commerce. Les habitants et les commerçants font tout pour se départir de la mauvaise réputation de ce quartier populaire et de son célèbre marché afin de préserver leur cadre de vie et leur business. Céline Abagui pour VOA Afrique, Dakar.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, le Moyen-Orient en ébullition après l'attaque surprise du Hamas qui a fait des centaines de morts en Israël. L'État hébreu a riposté en pilonnant Gaza et en imposant un siège complet de ce territoire sous le contrôle du groupe militant palestinien. Les appels à la désescalade et au dialogue ne sont pas pour l'instant suivis d'effets sur le terrain. Comment en est-on arrivé là? Quel risque pour la région et le reste du monde? Comment mettre fin au conflit israélo-palestinien? Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
L'offensive du Hamas a suscité de multiples condamnations internationales ainsi que des inquiétudes face à l'éventualité d'un assaut terrestre sur Gaza tandis que la situation reste tendue à la frontière d'Israël avec le Liban. Comment l'Égypte peut-elle user de son influence pour faciliter la médiation entre Israël et le Hamas et prévenir une escalade? Eric Manirakiza a joint à Tunis la journaliste et spécialiste du Moyen-Orient, Frida Damani.
Alors, il ne faut pas oublier que historiquement, l'Égypte est quand même le pays qui avait, dès les années 70, signé un accord de paix avec Israël et qui, jusqu'à présent, tient la route. Aujourd'hui, l'Égypte a une position privilégiée parce qu'elle peut être un négociateur, par exemple, sur la question des otages actuellement avec le Hamas. Elle pourrait ouvrir des canaux de communication puisque de toute façon, l'Égypte sait très bien ce qui se passe à Gaza. Il ne faut pas oublier que les services de renseignement égyptiens sont très très rodés à ce genre de choses. Mais par contre, l'Égypte est aussi dans une crainte, c'est que le blocus là, qui est fait autour de Gaza et tout ce territoire qui va être bombardé, pillonné, ou bientôt bien l'armée de terre va aussi lancer une offensive, parce qu'actuellement il y a des attaques aériennes et maritimes, mais pas encore d'offensive terrestre, ça va arriver, ça a été annoncé. À partir de là, il y aura une population de civils qui va vouloir échapper à cette banque. Et la seule voie d'issue, c'est justement entrer en Égypte par les checkpoints qui sont disposés le long du Sinaï. C'est à ce moment-là qu'il devient très très fragile, très sensible plutôt pour les Égyptiens, parce qu'il va leur falloir trier entre ceux qui sont des civils tout à fait normaux et ceux qui pourraient être des membres de Hamas qui voudraient s'infiltrer en Égypte. L'Égypte actuellement est à la veille d'élections présidentielles en décembre 2023, où le président Sisi se représente donc à sa propre succession et il ne saurait être question pour eux de réveiller aujourd'hui le mouvement des frères musulmans qui pourrait reprendre du service à faveur de cet embrasement autour de Hamas. Donc tout ça rend la négociation égyptienne très délicate. L'intérêt de l'Égypte serait de dire stop, enfin, que tout s'arrête, que tout rentre dans l'ordre le plus vite possible. Et elle va tout faire pour. Elle n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un conflit à ses frontières. Ce conflit risque de faire tache d'huile dans toute la région.
Comment l'Égypte peut-elle collaborer avec les parties impliquées pour parvenir à une résolution rapide et sécurisée, tout en maintenant des relations diplomatiques solides avec Israël et le Hamas?
L'un n'empêche pas nôtre. Au contraire, les Égyptiens sont très très connus pour leur entre-gens, pour leur lobbying. Et puis l'Égypte joue son rôle de leader parmi les pays arabes. Elle reste dans une continuité historique. Donc, ceci dit, les Égyptiens ont tout à fait l'habitude de travailler avec des homologues israéliens et également avec des homologues palestiniens, pas uniquement Hamas dans la bande de Gaza, mais également d'autres représentants de l'autorité palestinienne. Donc voilà, et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on n'a pas une vue globale, c'est parce qu'on ne se rend pas compte que, en fait, les vis-à-vis palestiniens sont à deux niveaux. On a l'autorité palestinienne, on a les Gaza sous contrôle du Hamas. Gaza, finalement, est quelque part occupée par le Hamas. Donc beaucoup pourraient considérer que le Hamas, dans tout ça, est le moins légitime, surtout avec les exactions qui ont été commises.
Frida Damani, journaliste et spécialiste du Moyen-Orient, jointe à Tunis. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.